Bonjour, professeur Laurent Papazian. Vous êtes PUPH en réanimation à l'Université d'Aix-Marseille et chef de service de réanimation DRIS pour détresse respiratoire et infection sévère de l'Hôpital Nord à Marseille. Vous êtes aussi président du CNU de réanimation et vous êtes un spécialiste du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est sur ce thème-là et sur le thème des traitements adjuvants du SDRA que nous vous avons invité. La première question tout de suite, quand et combien de temps faut-il curariser un patient en SDRA ?
Alors si l'on suit les résultats de l'étude à Curasis, l'intérêt serait de curariser les patients tôt dans l'évolution du SDRA, c'est-à-dire dans les 48 premières heures, pour une durée courte, on en discutera un peu plus loin, et réserver cela aux patients qui présentent les formes les plus graves de SDRA. Donc, dans l'étude à Curasis, il s'agissait des patients qui avaient un rapport PO2 sur FO2 inférieur à 120, mais disons que dans la pratique, on peut limiter ça aux patients présentant un SDRA sévère. Alors, il faut quand même à ce stade ajouter que c'était combiné à une prise en charge ventilatoire privilégiant une ventilation protectrice, et puis surtout, au terme de la période de curarisation, 48 heures dans cette étude, mais dans la pratique, ça peut être 24 heures lorsque le malade s'améliore de façon très importante et parfois plus prolongée chez les patients ayant une compliance très altérée. Mais quoi qu'il en soit, quand on arrête les curares, ce qui est important, c'est de privilégier la ventilation spontanée, en tout cas des efforts inspiratoires, autant que faire se peut, en passant les malades dans un mode autorisant des efforts inspiratoires tels que BIPAP, APRV ou aide inspiratoire. C'est un point capital.
Merci beaucoup. Et quand faut-il pratiquer le décubitus ventral ?
Alors, comme tu le sais, après l'échec de plusieurs études qui n'avaient pas montré de bénéfice sur le pronostic du décubitus ventral, l'étude PROSEVA de Claude Guérin a eu comme intérêt de privilégier des patients présentant une forme sévère de SDRA, c'est-à-dire des patients qui avaient un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, évalué avec une pipe d'au moins 5 cm d'eau. C'est un point important et là, l'effet a été manifeste. Donc je dirais que ces patients-là bénéficient du décubitus ventral. Deux points sont à ajouter. Tout d'abord, pour 90% des patients, il y avait association d'une curarisation. Et le deuxième point très important, c'est que, attention, le décubitus ventral était poursuivi, même s'il n'y avait pas de réponse en termes d'amélioration du rapport PO2 sur FiO2. Et donc, c'était poursuivi jusqu'en gros au réveil du patient, c'est-à-dire à l'arrêt de la sédation et le passage à un mode autorisant la ventilation spontanée.
Cela veut donc dire qu'on peut mettre un patient en décubitus ventral sans curarisation.
Exactement. Dans l'étude de Claude Guérin, il y avait 10% des patients qui n'avaient pas de curarisation, donc avec une sédation adéquate et une bonne tolérance.
Et quelle est la place du monoxyde d'azote dans le SDRA ?
Alors, c'est une place qui est assez ambiguë, parce que si on regarde de la littérature en termes d'amélioration du pronostic, les études sont négatives, voire même on décrit des effets délétères sur la fonction rénale. Si on regarde dans la pratique, il y a encore une consommation extrêmement importante de monoxyde d'azote. Je mets à part la dysfonction ventriculaire droite liée à une HTAP. Disons qu'on va se consacrer uniquement là à la correction de l'hypoxémie. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme indication ? Il peut y avoir comme indication le malade qui demeure hypoxémique, c'est-à-dire avec un rapport PO2 sur FiO2, par exemple, inférieur à 70 ou 80, alors que le patient est curarisé, qu'il est en décubitus ventral, que la ventilation mécanique a été optimisée, le patient a un niveau de pipe élevé, et peut-être que ça peut permettre, dans quelques cas, d'éviter le recours à des techniques plus invasives telles que l'ECMO. Mais vous voyez, cette place est limitée. Simplement, il faut quand même ajouter quelque chose d'important, c'est que toutes ces études sur le monoxyde d'azote ont été réalisées, sur des populations de SDRA non sélectionnées, c'est-à-dire des patients qui avaient des rapports PO2 sur FO2 inférieurs à 300. Et la deuxième, c'était ces études ont été réalisées à un moment où les paramètres de ventilation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et la ventilation n'était pas du tout protectrice. Cela pourrait plaider pour la réalisation d'études visant à évaluer l'ENO, mais en technique de sauvetage cette fois-ci.
Et pour finir, quelle est la place des corticoïdes ?
Alors, concernant les corticoïdes, c'est un petit peu comme le monoxyde d'azote, la place est controversée. Là aussi, on n'a que quelques données dans la littérature. On a l'impression qu'il y a un effet d'augmentation du nombre de jours vivants sans ventilation mécanique lorsque c'est donné relativement précocement, mais il demeure beaucoup d'inconnus. Quand est-ce qu'on commence le traitement ? Quelles molécules on utilise ? À quel dosage ? Pour combien de temps ? Et surtout, dans quelle indication ? C'est peut-être dans ce contexte que l'utilisation de biomarqueurs pourrait permettre de mieux guider le traitement. Et puis, encore une fois, ces études ont été réalisées à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors que, les paramètres de ventilation protectrice n'étaient pas utilisés sur l'ensemble des patients. Donc, l'effet des corticoïdes pourrait finalement être moindre que celui qu'il était dans les études de Meduri, par exemple. Donc là aussi, nécessité de réévaluation à la lumière des acquisitions récentes en termes de réglage de la ventilation mécanique et en utilisant éventuellement des biomarqueurs.
Quels sont pour vous les trois papiers majeurs qu'il faut avoir lus sur les traitements adjuvants du syndrome de détresse respiratoire aiguë ?
Donc, concernant l'utilisation du décubitus ventral, je recommande la lecture attentive de l'étude PROCEVA et en particulier de la partie méthodologique avec visionnage de la vidéo, d'ailleurs de réalisation du décubitus ventral et la méthodologie, c'est-à-dire la durée des séances et le fait de poursuivre les séances même en l'absence de réponse en termes de rapport PO2 sur FiO2. L'étude Accurasis, là aussi, partie méthodologique, il y a un tableau avec les guidelines à suivre pour l'optimisation de la ventilation mécanique. Ça faisait partie intégrante du protocole, donc c'est cet aspect-là qui me paraît intéressant. Et puis la revue générale de Rossin, parue dans Intensive Care Medicine, qui fait le point sur les connaissances sur l'ENO, et puis surtout sur les perspectives de recherche, en particulier en tant que technique de sauvetage.
Et comme d'habitude, la question bonus, qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour qu'il choisisse en 2017 de faire de la réanimation sa future spécialité ?
Je lui dirais que c'est un métier plein d'avenir où les progrès qu'il verra durant sa carrière seront encore beaucoup plus importants que ce que nous, on a vu au cours des 20 ou 30 dernières années. C'est un métier enthousiasmant. Contrairement à ce qui se dit, il ne faut pas se laisser abuser par le fait que ce soit peut-être pas le métier d'une vie. Pour moi, je pense que ça peut être le métier d'une vie. Et j'ai peu de confrères qui font que de la réanimation et qui ont tourné la page et se sont tournés vers une autre profession. Donc c'est un engagement de toute une vie et on y trouve beaucoup de satisfaction personnelle, professionnelle, auprès des familles, dans l'équipe soignante, auprès de l'équipe soignante et auprès de ses collègues. Donc enthousiasme.